إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. On continue donc par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala cette série de cours sur le tawhid, la science de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'épître que nous allons étudier, c'est les annulatifs de l'islam de l'imam Muhammad Ibn Abd al-Wahhab al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Et dans l'assise d'aujourd'hui, on va aborder quelques points essentiels qui nous faciliteront la compréhension de l'étude de ce livre. Tout d'abord, nous allons commencer par une biographie concise de l'auteur. Le Cheikh Muhammad Ibn Abd al-Wahhab Ibn Sulayman al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Il est né en l'an 1115 de l'Égypte, ce qui correspond à l'an 1703 selon le calendrier grégorien. Il est né, rahimahullah, dans une famille de religion et une famille de science. En effet, son père et son grand-père étaient tous deux des savants. Son grand-père, Sulayman ibn Ali, il était d'ailleurs le savant du Najd à son époque, rahimahullah. Cheikh Mohammed, rahimahullah, donc, il mémorisa le Coran durant son enfance, et il termina sa mémorisation avant l'âge de 10 ans. Il devint ensuite pubère avant ses 12 ans, et son père, rahimahullah, il le considéra alors apte à diriger la prière, et il l'a marié à cet âge-là. Le Cheikh Mohammed, rahimahullah, il a étudié avec son père la science du fiqh hanbali, le tafsir, ainsi que le hadith. Dès son enfance, il a été bercé dans les livres de tafsir, dans les livres de hadith et dans les livres de croyances. Et il donnait beaucoup d'importance aux livres de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, ainsi que de son élève Ibn al-Qayyim rahimahullah. Et il consultait souvent leurs ouvrages. Il a par la suite voyagé à la recherche de la science. Il a voyagé au Najd, il a voyagé aussi vers la Mecque et vers Médine. Il commença ensuite à prêcher au tawhid après la mort de son père, rahimahullah. Il a donc commencé l'appel au tawhid. Il condamnait le shirk, il condamnait les innovations, il appelait au tawhid et il appelait à la sunnah. En effet, à son époque, rahimahullah, beaucoup de gens étaient tombés dans différentes pratiques polythéistes. Le Cheikh Mohammed, rahimahullah, il les appela donc à revenir à l'islam authentique, l'islam du prophète Mohammed ibn Abdillah, sallallahu alayhi wa sallam, celui auquel ont adhéré les compagnons radiyallahu ta'ala anhum, ainsi que ceux qui les ont suivis de la meilleure manière sur ce sentier. Allah subhanahu wa ta'ala a restauré par cet imam ce qui avait disparu parmi les rites de l'islam à la moitié du 12e siècle de l'Hégire. L'émir Muhammad ibn Saoud rahimahullah l'a soutenu dans cela, et ils réunirent ensemble les tribus arabes sous l'étendard du tawhid, jusqu'à ce que l'étendard du tawhid soit à nouveau levé sur les deux terres sacrées, la Mecque et Médine, de même que sur les terres les avoisinant dans la péninsule arabique. Et c'est ainsi, par le prêche de cet imam, que s'est établi l'état du tawhid et de la sunna, et ce jusqu'à nos jours. Cet état qui n'est autre que le royaume d'Arabie Saoudite, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve de tout mal. Cet état qui a été fondé sur le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et sur la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension des pieux prédécesseurs ridwanullahi ta'ala alayhim, et ce, n'en déplaise aux innovateurs. Ensuite, après diverses conquêtes, et notamment après la conquête de Riyad, qui est aujourd'hui la capitale du royaume, le Cheikh, rahimahullah, il se consacra entièrement à l'écriture ainsi qu'à l'enseignement. Et on compte parmi ses ouvrages les plus célèbres Kitab Tawhid, le livre de l'unicité, ainsi que les trois fondements, les quatre règles que nous avons déjà étudiées, ainsi que d'autres nombreux épîtres et ouvrages comme les annulatifs de l'islam, qui est le sujet de notre étude, incha'Allah ta'ala. Le Cheikh, rahimahullah, il mourut enfin en l'an 1206 de l'Hégire, qui correspond à l'an 1792 selon le calendrier grégorien. Et il mourut, rahimahullah, à l'âge de 91 ans, alors que le tawhid s'était répandu dans la péninsule arabique ainsi que dans ses alentours. Après sa mort, ses enfants ainsi que sa descendance continuèrent sur ce prêche béni et on compte certes parmi la descendance du Cheikh, rahimahullah, de nombreux imams et de nombreux éminents savants, et ce jusqu'à nos jours. Nous demandons donc à Allah subhanahu wa ta'ala de faire miséricorde au Cheikh Muhammad ibn Abdel Wahhab, de lui accorder le paradis, de le récompenser pour ce prêche et ses ouvrages, et de bénir sa descendance. En ce qui concerne cette épître, elle est intitulée « Nawaqidul Islam », les annulatifs de l'islam. Et avant de commencer, nous allons tout d'abord définir les termes de ce titre, et ce afin de comprendre au mieux le sujet que nous allons aborder. Donc, qu'est-ce qu'un annulatif et qu'est-ce que l'islam ? Un annulatif, c'est ce qui annule, ce qui rend quelque chose nul et vain, comme les annulatifs des ablutions, qui sont toutes les choses qui annulent les ablutions et les rendent vaines. Quant à l'islam, dans la langue arabe, ce mot est défini par la soumission et l'assujettissement. Et son sens religieux, l'auteur l'a défini dans les trois fondements, comme on l'a déjà vu, comme étant al-istislamu lillahi bit-tawhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'a wal-bara'atu min ash-shirki wa ahlihi. La soumission à Allah par l'unicité, l'assujettissement à lui par l'obéissance et le désaveu de l'association ainsi que de ses adeptes. La soumission à Allah par l'unicité, c'est-à-dire de se soumettre volontairement à Allah subhanahu wa ta'ala, en croyant en son unicité et en adorant nul autre que lui subhanahu wa ta'ala. L'assujettissement à lui par l'obéissance, c'est-à-dire en accomplissant ses ordres et en délaissant ses interdits. Voilà en quoi consiste l'obéissance. Que tu te soumettes aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala en les accomplissant et que tu te soumettes à ses interdits en les délaissant. Et le désaveu de l'association ainsi que de ses adeptes, c'est-à-dire s'en désolidariser, s'en séparer et le répugner et également se désolidariser, se séparer des adeptes du shirk et les répugner. Et nous avons déjà abordé cette question en détail lors de notre étude des trois fondements. Et il est important de noter que l'islam, tel que l'on vient de le définir, est la religion de l'ensemble des prophètes, alayhim salat wa salam. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas envoyé un prophète et n'a pas envoyé un messager avec autre que cet islam, et ce de Nuh alayhi salam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bien qu'ils ont eu des législations et des règles différentes, ils étaient tous sur l'islam, fondé sur ses bases essentielles, dont l'appel au tawhid et le désaveu du shirk. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, au verset 25 de Sourate Al-Anbiya, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ. Nous n'avons envoyé avant toi aucun messager sans ne lui avoir révélé point de Dieu en dehors de moi, adorez-moi donc. C'est-à-dire, point de Dieu en droit d'être adoré en dehors de moi, adorez-moi donc. Par conséquent, la religion de tous les prophètes, alayhim salat wa salam, est l'islam dans son sens général. La religion de Moussa alayhi salam, c'est l'islam. La religion de Isa alayhi salam, c'était l'islam également. Ainsi, c'est une erreur de dire que le judaïsme et le christianisme sont des religions célestes ou que ce sont des religions qui ont été abrogées. Car le judaïsme, C'est le nom de ce qui a été instauré par un groupe parmi les enfants d'Israël qui ont falsifié la Torah qui a été révélée à Moussa alayhi salam. Et le christianisme, c'est le nom de ce qu'a instauré un autre groupe parmi les enfants d'Israël qui ont falsifié l'Injil, l'Évangile qui a été révélé à Isa alayhi salam. Nous disons donc que la religion de Moussa et la religion de Isa alayhi salam, ainsi que tous les autres prophètes venus avant eux, étaient l'islam tel que l'on vient de le définir. La soumission à Allah par l'unicité, l'assujettissement à lui par l'obéissance et le désaveu de l'association ainsi que de ses adeptes. Quant à l'islam, dans son sens particulier, c'est le message apporté par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est la seule religion acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 19 de Sourate Ali Imran, Inna ad-din 'inda Allah al-Islam. Certes, la religion acceptée par Allah, c'est l'islam. Et il dit subhanahu wa ta'ala dans le verset 85 de la même sourate, Wa man yabtaghi ghayra al-Islam deenan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Et quiconque désire une religion autre que l'islam, cela ne sera pas agréé de lui, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Et cet islam, dans son sens particulier, c'est le bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à sa communauté. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, dans le verset 3 de Surat al-Ma'ida, « Al-yawma akmaltu lakum dinakum » وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَا. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Ceci est donc, pour ce qui concerne, le sens de ces deux termes. Revenons maintenant au titre. Les annulatifs de l'islam. Qu'est-ce qui est visé par ces termes? Les annulatifs de l'islam, ce sont tout ce qui fait passer celui qui est entré dans l'islam de l'islam à la mécréance. Tout ce qui fait passer celui qui est entré dans l'islam de l'islam à la mécréance. Et ces annulatifs, ils sont aussi appelés les causes de l'apostasie. Ils peuvent avoir lieu par la parole, l'acte, la croyance, le doute. Et on va y revenir, inshallah ta'ala. Donc à partir de là, on voit que les mécréants, ils sont de deux sortes. Il y a al-kafir al-asli, le mécréant d'origine, comme les juifs, les chrétiens, les adorateurs du feu, les bouddhistes et tous ceux qui n'ont pas répondu à l'appel de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont des mécréants d'origine. Le deuxième type de mécréant, c'est le kafir ou le murtad, le mécréant apostat. C'est celui qui sort de l'islam après avoir été musulman. S'il meurt ainsi, sans se repentir, alors il n'est pas lavé. Il n'est pas enveloppé d'un linceul. On ne prie pas sur lui. Il n'est pas enterré dans les cimetières des musulmans. On n'invoque pas la miséricorde d'Allah pour lui et les musulmans de sa famille. Il n'hérite pas de lui. Ceci est donc la situation du mécréant apostat et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Et ici, il y a une question importante qui se pose. Si le mécréant apostat prononce les deux attestations de foi, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah, j'atteste qu'il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré en dehors d'Allah, et j'atteste que Mohammed est le messager d'Allah. S'il prononce ces deux attestations, cela lui est-il profitable? La réponse est que cela ne lui profite en rien tant qu'il ne se repent pas et ne se désavoue pas de ce qui a imposé son apostasie et sa mécréance. Il doit donc proclamer son désaveu de la cause de son apostasie, se repentir de ce qui a causé son apostasie et de ce qu'il a fait sortir de l'islam. Quant au simple fait qu'il prononce les deux attestations, cela ne lui profite en rien. La prononciation des attestations, cela profite seulement aux mécréants d'origine, lorsqu'il les prononce, puis qu'il les fait suivre des autres rituels de l'islam, tels que les cinq prières, la zakat, le jeûne, le pèlerinage. C'est à celui-ci que profitent les deux attestations de foi. D'où l'importance de faire la distinction entre les deux types de mécréants, les mécréants d'origine et les mécréants apostats. Une personne, donc, elle peut passer de l'islam à la mécréance suite à certaines choses qui reviennent à quatre fondements. Ces quatre fondements que l'on appelle les fondements de l'apostasie, qui sont premièrement la parole, comme celui qui prononce une parole de mécréance, à l'exemple de celui qui insulte Allah subhanahu wa ta'ala ou son messager sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième fondement de l'apostasie, c'est l'acte, comme celui qui sacrifie ou se prosterne pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est de l'association majeure, excluant celui qui le commet de l'islam, car le sacrifice et la prosternation sont des adorations qui ne doivent être vouées qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, seul, sans aucun associé. Le troisième fondement de l'apostasie, c'est la croyance, comme celui qui croit que la prière n'est pas obligatoire ou que la prière n'a aucune importance. Celui qui a cette croyance dans son cœur, il devient mécréant, même s'il ne commet aucun acte et ne prononce aucune parole. Par le simple fait d'avoir cette croyance, il mécroit, même si en apparence, il accomplit beaucoup de bien, même s'il prie la nuit et qu'il jeûne le jour et qu'il accomplit d'autres œuvres de bien. À partir du moment où il a cette croyance dans son cœur, alors c'est un mécréant et il est sorti de l'islam et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Le quatrième et dernier fondement de l'apostasie, c'est le doute, qui est l'hésitation, qui est donc différent de la croyance. La croyance, c'est une chose en laquelle il croit sans aucune hésitation, tandis que le doute, il hésite. Par exemple, une personne, elle a un doute dans son cœur. Est-ce que l'islam est réellement la vraie religion? Est-ce que le paradis et l'enfer existent-ils réellement? Sera-t-on réellement ressuscité? Celui-là, il mécroit par son doute, même s'il prie, même s'il jeûne, et qu'il accomplit ce qu'il accomplit comme œuvre. En effet, il est impératif que le musulman, il affirme et croit en cela de façon certaine, sans aucun doute et sans aucune hésitation. Cependant, il est important ici de noter deux choses. La première est que le musulman, il ne doit pas laisser le diable lui ouvrir la porte des wasawis, la porte des insufflations. Car il se peut que le diable insuffle aux musulmans certaines choses qui relèvent de la mécréance. Mais le musulman les rejette. Et il fait ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné, qui est de chercher refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, en disant « A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim ». Donc le doute dont on parle ici, c'est un réel doute. La personne, elle ne sait pas. Peut-être que le paradis existe, peut-être qu'il n'existe pas. S'il a ce doute-là, alors il sort de l'islam et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. La deuxième chose importante à souligner, c'est qu'en ce qui nous concerne, nous n'avons que les apparences. Quant à ce qui se trouve dans les cœurs des gens, comme foi et mécréance, comme doute ou certitude, alors seul Allah subhanahu wa ta'ala en a connaissance. Voici donc les quatre fondements de l'apostasie qui font partie des choses que le musulman doit impérativement connaître. Surtout de nos jours, durant lesquels les prêcheurs au mal et les prédicateurs à l'égarement se sont multipliés. Les troubles et les fitanes se sont répandus, que ce soit des troubles et des fitanes liés aux ambiguïtés ou des troubles et des fitanes liés aux passions. Le musulman, donc, il doit se préserver et il ne doit pas se sentir à l'abri, mais il doit craindre pour lui-même l'apostasie. Ne pense pas, mon frère, que tout est gagné et que tu es à l'abri, mais nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermir. Et on multiplie cette invocation que faisait notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik. Ô Allah, toi qui retournes les cœurs, raffermis nos cœurs sur ta religion. Et nous avons un excellent modèle à suivre en le prophète Ibrahim alayhi salam, lui qui a cassé les idoles de sa main. Malgré cela, il ne se sentait pas à l'abri. Qu'est-ce qu'il a dit ? وَجَنُوبْنِي وَبَنِيَ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ. Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit « Et préserve-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles. » Si Ibrahim alayhi salam, qui a cassé les idoles de sa main, il fait cette invocation. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le préserver de l'adoration des idoles. Alors qui donc peut se sentir à l'abri après Ibrahim alayhi salam? Ceci nous prouve l'importance de l'étude de la science religieuse de manière générale et l'importance de l'étude de la science du tawhid et même de cette épître de façon particulière, et ce afin de pouvoir s'écarter de ces choses annulant l'islam et des causes de l'apostasie. Car celui dont l'islam est annulé, alors toutes ses œuvres sont annulées. Aucune œuvre ne lui sera profitable. Il est donc indispensable pour le musulman de connaître les annulatifs de l'islam. Car s'il ne les connaît pas, il risque de tomber dedans. Celui qui ne connaît pas une chose, il y a de fortes chances qu'il tombe dedans. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Le musulman donc, il doit connaître les annulatifs de l'islam. Et il doit les connaître d'après le Coran et la Sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. Ensuite, il doit implorer l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ne tomber dans aucun de ces annulatifs. Et je précise ici qu'il est important et indispensable de connaître ces annulatifs d'après le Coran et la Sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs, à la lumière des explications des savants de la Sunna, et ce afin d'en avoir une connaissance authentique. En effet, nombreux sont ceux qui se sont égarés sur ces questions. Et de manière générale, les gens se sont divisés en trois catégories vis-à-vis de ces annulatifs. Deux extrêmes et le groupe du juste milieu. Le premier groupe, ce sont ceux qui exagèrent dans le takfir, dans le fait de taxer les gens de mécréance et qui statuent la mécréance des gens sans aucune science ni preuve venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils taxent les musulmans de mécréance ainsi que tous ceux qui s'opposent à eux. Et ceux-là, ce sont les khawarij. Et ils ont trois principes de base sur lesquels ils ont basé leur idéologie. Le premier est qu'ils taxent de mécréance celui qui commet un grand péché, moindre que le shirk, moindre que le polythéisme. Comme le voleur, le consommateur d'alcool, le menteur, ou autre parmi les grands péchés. Ils considèrent que celui qui les commet, il sort de l'islam, et ceci est un égarement évident. Leur deuxième fondement, c'est qu'ils se révoltent contre les gouverneurs musulmans. Que cette révolte ait lieu par la parole, ou bien par les actes. Et leur troisième principe de base, c'est qu'ils jugent licite le sang des musulmans. Et c'est pour cela qu'ils sèment la terreur dans les pays musulmans en tuant des innocents, en commettant des attentats, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de leur mal. Et il est bon de savoir que ce n'est pas une condition que l'individu réunisse ces trois bases, mais quiconque adopte un seul de ces trois principes, alors il fait partie des khawarij. Il fait partie de ce groupe d'égarés. Le deuxième groupe, ce sont les murji'a, ceux qui disent que la foi est dans le cœur et que les œuvres ne font pas partie de la foi. Et certains d'entre eux-mêmes, ils excluent aussi les paroles de la foi. Pour les murji'a, quels que soient les actes que l'individu accomplit, alors il ne devient pas mécréant. Ils disent que tant que la personne elle a la foi dans son cœur, alors les péchés ne lui nuisent pas. Ils disent, de la même manière que celui qui est mécréant, l'obéissance ne lui est pas profitable, alors celui qui est croyant, les péchés, ils ne lui portent pas préjudice. Ceci est un de leurs principes, et il n'y a pas de doute que ceci est un égarement évident. Et ces deux groupes extrêmes, qui sont opposés comme vous le voyez, ils se sont égarés car ils n'ont pas réuni les textes entre eux. Les textes du Coran et de la Sunna. Ils n'ont pas réuni entre les textes de la promesse et ceux de la menace. Les murji'a, ils ont pris les textes de la promesse, ceux dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala, il promet pardon et miséricorde, et ils ne les ont pas réunis au texte, dans lesquels on trouve des menaces sévères et la condamnation du shirk, la condamnation de la mécréance, ainsi que la condamnation des péchés. Quant aux khawarij, ils ont fait l'inverse. Ils ont pris les textes de la menace et ils n'ont pas tenu compte des textes dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala promet pardon et miséricorde. Ils se sont alors égarés. Le troisième groupe, c'est le groupe des gens de la sunna, le groupe du juste milieu, entre les khawarij et les murji'a, ceux qui ont réuni entre les textes de la promesse et les textes de la menace, ceux qui distinguent entre la mécréance majeure et la mécréance mineure, ceux qui distinguent entre le polythéisme majeur et le polythéisme mineur, et ceux qui distinguent entre la mécréance et le polythéisme et les péchés qui sont moindres que le polythéisme et dont l'auteur ne mécroit pas. En effet, la mécréance majeure et le polythéisme majeur, celui qui les commet, il sort alors de l'islam. Quant à la mécréance mineure ou le polythéisme mineur, ainsi que les péchés, qu'ils soient grands ou petits, alors ils ne font pas sortir leur auteur de l'islam, mais ils en diminuent sa foi. Donc vous voyez qu'à travers cela, les gens de la sunna, ils s'opposent aux khawarij, car ils disent que celui qui commet un péché, qu'il soit petit ou grand, il ne sort pas de l'islam. Alors que les khawarij, ils considèrent que celui qui commet un grand péché n'est pas musulman. Et également les gens de la sunna, ils s'opposent aux murji'a, car ils ont comme croyance que le musulman qui commet un grand péché, alors sa foi diminue. Il est croyant, mais à la fois manquante et défaillante, contrairement aux murji'a qui considèrent que la foi ne diminue pas. Enfin, pour conclure cette assise, il est important de savoir que l'un des fondements par lesquels les gens de la sunna se distinguent des innovateurs au sujet du takfir et qu'ils font la différence entre le takfir al-mutlaq et le takfir al-mu'ayyan. Le takfir al-mutlaq, c'est-à-dire dans l'absolu, sans détermination. Et ceci est obligatoire pour le croyant. Tout type d'individu qu'Allah a déclaré mécréant, il est obligatoire de croire en leur mécréance. Également, dans l'absolu, nous disons, quiconque accomplit un des annulatifs de l'islam n'est plus musulman. Ceci de manière absolue. Quant au takfir al-mu'ayyan, le takfir d'un individu précis, ceci nécessite la réunion de conditions et la levée d'empêchements. Et ceci revient aux gens de science, aux savants ainsi qu'aux juges musulmans. Nous faisons donc la différence entre ces deux jugements, le takfir al-mutlaq et le takfir al-mu'ayyan, le takfir de manière absolue et le takfir des individus précis. Et nous, à travers l'étude de ce livre, on va parler de manière absolue. Quant aux individus précis, aux individus particuliers, alors nous revenons pour cela aux gens de science qui prononcent, eux, le jugement sur les individus. Ceci était donc quelques questions essentielles à l'étude de ce livre et nous verrons dans l'assise de la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala, le premier annulatif de l'islam qui est l'association majeure. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de raffermir nos cœurs sur sa religion. Wa sallillahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا